Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Holy Beats, votre podcast bimensuel qui parle ouvertement de beats dans le sens en large du terme de la tech aux jeux vidéo, tout ce qui peut être composé par des 0 ou des 1. Émission numéro 3 ou 11 en binaire si je pourrais dire, donc avec l'aide de beats. Et en parlant de beats, eh bien, il est là lui aussi, il est aux jeux vidéo ce que Donald Trump est aux États-Unis, à savoir l'élu. Comment ça va, Herben?
Oh la vache, je t'ai pas prêt.
Eh ouais, bah écoute, il faut savoir un petit peu pimenter les présentations. Donc, tu vas bien?
Écoute, très bien. Ravi de te retrouver, de vous retrouver avec le chat, le chat.
Le chat est ici, également avec nous, puisque on est une émission interactive, on le dit encore une fois. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez nous suivre également en direct sur Twitch, bien sûr, et réagir en direct avec nous pendant les émissions. Je précise également que tous les épisodes actuellement, maintenant, sont disponibles sur la chaîne Pad Out Replay. Donc, c'est la chaîne des replays où vous retrouverez également...
La chaîne YouTube.
La chaîne YouTube, oui, bien sûr. Excusez-moi. Vous retrouverez d'autres trucs intéressants comme des lives de jeux vidéo, par exemple. Là, j'ai testé Call of Duty Black Ops 6 la semaine dernière. Ou encore, vous pouvez retrouver aussi les musiques des Glorious Bastards, donc encore une avec Rusty Beard et Thousand Balls bien sûr, et aujourd'hui c'était Teenage Riot, Screw the Rule, donc album bien sûr des Holy Beats, le very best of une fois de plus, donc chaque semaine ben, vous retrouverez normalement une nouvelle musique des Glorious Bastards et en plus disponible directement sur la chaîne de replay si vous voulez l'écouter individuellement.
Tu verras qu'on nous demandera les droits tôt ou tard.
Non mais ils sont sympas avec nous. Ils sont vraiment, vraiment cool. Donc, au sommaire de cette émission aujourd'hui, une fois de plus, c'est très chargé. On va parler de la future version de Arc. Donc, c'est le browser. Enfin, bon, on va en parler tout à l'heure, mais c'est le browser qui est utilisé, notamment pour vous présenter les émissions. Un petit documentaire aussi qui va arriver sur Hayao Miyazaki, le grand maître, comme on l'appelle. Et enfin, notre grand dossier également sur les annonces Apple qu'il y a eu la semaine dernière. On ne pouvait pas passer à côté. Donc, ça sera vraiment notre grand dossier d'aujourd'hui. Je vous partagerai également un livre, on le verra à la fin dans le moment de touchage. Il y aura également un petit peu de Pokémon et on finira par une nouvelle petite chose qu'on a mis en place avec Herben, chose qu'on va tester aujourd'hui, on verra si ça vous plaît.
Parce que nous sommes en mode itératif, David.
Parce que nous itérons. Est-ce qu'on peut dire que nous itérons? Oui.
Nous itérons, tout à fait.
Nous itérons, nous essayons de nous améliorer, d'être une meilleure version de nous-mêmes à chaque nouvel épisode de podcast. Prenez vos aises si vous êtes en train de manger, bon appétit, c'est le but aussi. On va se détendre un petit peu ensemble durant une petite heure environ. Je te laisse commencer donc avec les news pour cet épisode numéro 3.
Alors, pour cet épisode, j'ai choisi de vous parler de Arc. Alors, Arc, comme tu disais, on l'a montré indirectement, puisque c'est le browser que tu utilises pour nous partager un peu les vidéos sur chacun des sujets qu'on adresse.
Plutôt de l'autre côté, oui.
Alors, en fait, bon, je pense que tout le monde a à peu près conscience de ça, mais le secteur des browsers, c'est un secteur qui est ultra concurrentiel, qui est vraiment dominé par Chrome, donc détenu par, détenu par Google. Après, on a Safari de par les iPhones et les Mac, puisque jusqu'à présent, en Europe, c'est un peu en train de changer, mais voilà, on avait Safari comme browser par défaut. Et après, on a, je dirais, des browsers avec des propositions un petit peu différentes pour servir d'autres publics peut-être plus exigeants sur telle ou telle verticale. Donc on a Vivaldi, on a Edge qui est basé aussi sur Chromium, on a DuckDuckGo. Moi j'utilisais beaucoup Brave avant de mettre
Brave.
Arc.
On y était passé.
Brave, c'est sûr que ça met en péril pas mal de business puisque ça
bloque toutes les publicités.
Scripts, possible et inimaginable. D'ailleurs, l'expérience de surf peut être un peu, du coup, cassée par moment. Ça dépend des websites et comment ils sont développés. Mais bon, je voulais vous parler de Arc parce qu'en fait, Arc, ils sont rentrés dans la danse avec une proposition un petit peu différente, une manière de faire un peu différente et des idées, je dirais, qui d'ailleurs ont été repompées pour certaines par les autres browsers que j'ai pu mentionner. En fait, Arc, c'est... C'est typiquement la startup américaine qui s'assure de de délivrer je dirais, un travail de qualité sur à peu près tous les pans, sur la communication. Donc, ils ont une chaîne YouTube pour expliquer un peu leur démarche. Ils sont très transparents avec la relation avec leurs investisseurs, etc. Bref, et donc, ils mettent vraiment au centre de leur travail l'expérience, la user experience. Donc, en gros, ils veulent proposer quelque chose de différent et ils se présentent un peu comme l'entreprise qui va un peu réinventer la manière de consommer le web. Alors, ça paraît un peu prétentieux sur le papier, mais ce n'est pas inintéressant parce que ils proposent justement voilà, pas mal de fonctions qui tournent autour de l'IA notamment, mais aussi des parties pré-design en termes d'ergonomie et
Surtout ça.
beaucoup de logique et beaucoup de bon sens sur la manière dont les raccourcis en fait sont utilisés, etc. Comment, enfin bref, je vais pas lister parce que il suffit d'aller sur The
Y a
Browser
surtout.
Company qui est l'éditeur en fait de Arc.
Ouais. Et il y a
Vas-y,
surtout,
je t'en prie,
je
pas
dirais,
plus que t'étais
une
dans toi.
approche qui est un petit peu, juste je réagis par rapport à ça, c'est une approche un petit peu différente différente, pardon, de l'ergonomie des browsers, on va dire contrairement à ce qui est plus ou moins fait depuis des décennies maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de gros changements en termes ergonomiques, je trouve. Et c'est vraiment sur Arc qu'on se retrouve avec quelque chose de, on va dire, assez frais, nouveau, qui peut pas plaire à tout le monde à mon sens, mais qui apporte
Alors
quelque
justement,
chose
on va
de
en parler.
vraiment assez efficace quand tu comprends la démarche et quand tu comprends comment utiliser toutes ces fonctionnalités. Quand j'entends fonctionnalités, c'est effectivement, tu l'as dit, les raccourcis clavier qui te permettent d'aller assez vite, les space, enfin les spaces, etc. Donc c'est des choses. Alors je peux éventuellement vous les montrer en même temps pour ceux qui nous suivent. Donc il y a des raccourcis qui sont tout bêtes, mais comme le POMS, je suis sur Mac, qui vous permet de voir là sur les côtés. Et en fait, moi, tout mon espace, donc ici, est divisé par des spaces. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais ça permet de un petit peu mieux s'organiser. Il y a différents niveaux d'organisation au niveau du logiciel en lui-même, avec une gestion des tables qui est particulière, etc., etc. Et la
Il y a
possibilité de
vraiment.
personnaliser vraiment sa vue, vraiment d'aller limite faire du code pour personnaliser sa vue. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le code aussi, c'est très 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 intéressant.
Certains browsers proposaient déjà en fait une gestion des tabs verticales. Et pour moi, Arc
Au-dessus.
a vraiment apporté avec les spaces, comme tu disais, les spaces notamment, et surtout cette logique de to do. C'est très intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, on ouvre des dizaines, voire des centaines en fonction de son usage de tabs à la journée. Et en fait, Arc propose comment dirais-je, d'archiver pour vous, donc c'est pas perdu, mais ils disparaissent en tout cas frontalement sur l'interface vos tabs après une journée, une semaine, un mois, etc. Et donc ça c'est au choix de l'utilisateur. Bref, donc c'est hyper intéressant ce que tu disais, Pat, parce que justement c'est un browser qui se veut un peu singulier. Moi, je leur sers vraiment mon chapeau parce que d'un point de vue purement design, UI, animation. Le soin apporté un peu à tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils délivrent est assez incroyable. Je pense notamment, je ne sais pas si tu te rappelles de l'onboarding. J'ai rarement
Ouais,
eu
c'est
autant
très très propre,
d'émotions
bien sûr.
en ouvrant le point DMG d'une application sur. Et je parle bien d'émotions parce qu'il faut le vivre en fait. Il y a un
Ouais.
soin apporté juste à la première seconde en fait
Première expérience utilisateur, c'est ça qu'on appelle l'onboarding, c'est-à-dire c'est vraiment le moment où vous installez, où vous déballez. C'est ce qu'a, on va dire, pas révolutionné Apple, mais c'est une chose sur laquelle ils travaillent beaucoup, c'est-à-dire vraiment quand tu déballes ton produit Apple, t'as une sorte d'émotion, c'est-à-dire t'es vraiment pris par la première expérience
Parce
qui est
que c'est
vraiment
ça en
bonne,
fait que
et c'est
tu
ça qui
gardes en
amène après le reste.
mémoire.
Voilà, tout à fait, tout à fait.
Exactement. Et bref, donc là, eux, ils ont tout compris
Et donc
là-dessus.
le 2, parce que je vois marqué Arc 2, et il faut se dépêcher un petit
Alors,
peu.
Arc 2, c'était un peu un teasing. Ouais, ce que tu disais, c'était intéressant parce qu'en fait, la courbe de progression sur ce browser, elle peut un peu faire peur, entre guillemets. Et
Ouais.
Josh Miller, du coup, le CEO de The Browser Company, toujours dans cette idée de transparence, expliquait dans une vidéo récemment, qu'on retrouve sur leur chaîne YouTube, hein, que leurs amis et leur famille soutenaient le projet, mais n'arrivaient pas à devenir utilisateurs eux-mêmes, si tu veux,
D'accord.
pour plein de raisons. Et du coup, à partir de ce constat-là, ils ont réfléchi un peu différemment et ils ont envisagé de mettre en pause Arc, premier du nom, pour proposer quelque chose encore de différent, tu vois, beaucoup plus simple d'approche, etc. Peut-être moins disruptif par certains. Une levée de bouclier par le cœur de fans de Arc, parce qu'ils sont pas nombreux. Hein. Encore une fois, on rappelle, Google Chrome, c'est 64% des parts de marché aujourd'hui. Arc, ça doit être moins d'1%, je
Ouais.
pense. Malgré tout, voilà, ils ont
Ah, c'est
un cœur
moins
de
d'un
fans.
pour cent? C'est tu penses ou c'est un vrai chiffre ça ?
J'ai pas de data sur Arc, mais ils ont une croissance qui est quand même assez limitée, mais par contre ils ont un noyau de fans vraiment. Enfin que tu ne
oui c'est vrai que quand tu embrasses vraiment leur philosophie, t'es à fond dedans. Et ça, ouais. ça se comprend parfaitement pour le coup. Mais ouais.
Et bref, donc j'ai pas forcément l'idée. En fait, c'était de vous partager l'existence de Arc, mais surtout de ce qui va arriver début 2025. Puis on va avoir un deuxième browser qui va vivre parallèlement à Arc.
Ah.
On ne sait pas son nom. Ça va être d'accord. Une autre proposition. Et dans la vidéo, ils distillent quelques petits aperçus de design. Ouais. Où notamment, c'est hyper intéressant. Ils ont trois idées majeures en fait pour ce nouveau browser. Ça sera la première idée, donc ça a l'air vraiment important. Il y aura une composante d'intelligence artificielle, pas très originale, mais apparemment qui sera vraiment au cœur du browser.
D'accord, ouais.
Ils vont réfléchir aussi à comment faire évoluer la commande barre, qui historiquement en fait était simplement une barre d'URL. Puis en 2008, via Chrome, on a commencé à taper, tu sais, des recherches directement dedans,
ouais, directement dessus,
pas
ouais.
Juste une URL.
Tout à fait.
Donc ça, c'est voilà, il y a tout un enjeu aussi de comment. Un peu disrupter et imaginer quelque chose de différent par rapport à cette commande barre. Et la troisième, c'est anticiper tes besoins. Alors, ça veut tout et rien dire. Mais voilà, ça donne un peu la philosophie de ce nouveau browser. Et dans la vidéo, notamment, ils en sont à un niveau de prototypage, je pense, vraiment très bas niveau. Mais on voit une sorte de bulle qui déplace, comme l'épingle dans Word à l'époque, c'est en bas à droite, là. Pas l'épingle, le trombone. Clipsy, je sais plus comment il s'appelait.
Ouais.
Bref, et ben de la même manière, j'ai l'impression qu'ils vont envisager d'avoir quelque chose que tu déplaces dans l'interface. Et en fonction de là où tu déposes en fait l'élément, tu vas pouvoir en fait lui demander des choses, des explications sur telle portion de phrase ou telle image, etc.
Ouais.
Donc, ça va être de l'analyse de
comportement ou d'interface ouais. Et qui va nous amener après à quelque chose de plus intuitif au niveau des recherches, c'est-à-dire anticiper la recherche que tu veux faire en fonction du travail que tu es en train d'effectuer, des tâches que tu es en train d'effectuer. C'est un peu la vision qu'a ChatGPT aussi, puisque eux, leur but c'est vraiment d'analyser le contenu de l'affichage de ton ordinateur pour pouvoir derrière t'accompagner sur à la fois ton travail, tes recherches, etc.
T'as dû.
Donc c'est peut-être un peu ça, parce qu'on le voit aussi dans la vidéo. Il y a du ChatGPT.
Ouais, mais t'as dû le voir passer récemment sur X. J'ai vu passer une startup qui, en gros, te permet de prompter. Et une fois que t'as fini ton prompt, il fait tout pour toi sur le website. C'est-à-dire qu'il va aller sur un website, il va remplir les formulaires, il va se connecter, etc.
Je crois que c'est Mistral, si je ne me trompe pas. C'est Mistral IA.
Ah ouais ? Ok.
Si je ne me gourre pas, c'est un LLM.
Je me demande s'ils ne vont pas essayer de gratter un peu de ce côté-là. Mais bon, je vous en parlerai le moment venu quand le reveal sera fait.
Allez, mais évidemment, on continuera de suivre ça de près. De toute façon, on est utilisateur, on fait partie de la fanbase, je crois qu'on peut le dire. On va passer sur ceci. Alors, pour ceux qui nous suivent donc sur Twitch, vous voyez l'image, hein, évidemment. Mais bon, je vais décrire un petit peu tout ça. Moi, le but, c'était de vous partager un petit peu une petite news qui est arrivée, qui n'était pas forcément annoncée depuis très très longtemps, mais en tout cas, c'est un documentaire qui va avoir lieu, qui va être dans les salles de cinéma en France, en exclusivité mondiale, les 21 et 22 novembre. Et le documentaire s'appelle Hayao Miyazaki et le Héron, qui va retracer l'histoire, on va dire, la période créative de Hayao Miyazaki et de son équipe. On voit un petit peu son producteur, etc. Du Garçon et du Héron, donc la dernière production de Ghibli. Et en fait, c'est un truc qui va durer 2 heures, un documentaire qui va durer 2 heures. Et pour le coup, ça rejoint un petit peu... ce truc là, tu vois, je fais un petit aparté, donc là aussi j'ai des choses un petit peu visuelles, donc je m'en excuse pour la partie podcast, mais j'en avais parlé en fait. Il y avait eu ici, je sais pas si tu vois, mais les 10 ans avec Hayao Miyazaki en fait, qui était une production qui après a été publiée sur NHK de sur leur site web, où vous pouvez aller voir gratuitement en fait il y a 4 épisodes, si je me trompe pas, mais ça doit être marqué. Oui, il y a 4 épisodes qui font 50 minutes. Voilà, c'est un pur régal pour peu que vous aimez toutes les productions de Ghibli, où on voit un Hayao Miyazaki à la fois. enfin, on le voit dans son processus créatif, mais on le voit aussi personnellement, on le voit aussi avec sa relation avec son fils, qui est très très compliqué. Son fils qui est arrivé un petit peu chez Ghibli via son producteur, mais où la... On attend qu'il prenne la suite, mais en fait, on sent qu'il n'a pas les capacités de prendre la suite, etc. Enfin, tout ce que produit Goro, c'est Goro Miyazaki, son fils. Là, je te donne mon avis perso, mais c'est absolument pas du même niveau du père. Et les deux ont une relation qui est quand même assez conflictuelle. Donc, ça parle un petit peu de Ponyo, ça parle un petit peu de Le Vent se lève également. Donc, tout ça, ça retrace une période quand même assez longue de son histoire. Ces quatre épisodes-là, que je vous partageais sur le site, donc pat.a, où vous pouvez aller retrouver le lien. C'est quatre épisodes qui se sont passés en 2013, donc on commence en 2013. Et donc là, le nouveau documentaire, ce documentaire-là qui a été présenté d'ailleurs au Festival de Cannes, je ne sais pas si je l'ai dit,
ah, okay.
Je redis. Ouais, il a été présenté en avant-première. Ça va être donc 10 ans plus tard pendant la production du Garçon et du Héron, qui est, je crois, 2023, si je ne me trompe pas. Ou en tout cas, sa production, le top de sa production était en 2023. Donc pour le coup, ça va être 10 ans après. On retrouve un Hayao Miyazaki qui a 83 ans maintenant et qui... À mon sens, d'après ce qu'on voit sur je remets le truc, qu'on voit un petit peu là-dessus, c'est il sent ça comme peut-être son œuvre ultime, sa dernière œuvre.
Ça fait pas 10 fois qu'il annonce sa retraite.
Alors, ben justement, sa retraite officiellement, il l'avait annoncé en 2013. En 2013, okay. Il a dit c'est bon, j'arrête tout. Et je crois que c'était, je sais pas si c'était pour Ponyo. Je pense que c'était pour Ponyo, et il a dit après, bon, ben voilà, c'est fini. Donc, il devait avoir 73 ans, 72 ans, quelque chose comme ça. Il a dit, j'arrête. Mais c'est, comme il dit, c'est ça, non seulement ça l'anime, il a envie de raconter des choses, il parle un petit peu.
Sa raison
aussi
d'être,
de,
quoi.
C'est sa raison d'être. Ce qu'il met dans tous ses films, inclut toutes les émotions de son créateur, mais vraiment, la perte de sa mère, etc. Tout ça, en fait, c'est des choses qui, une fois que tu comprends, une fois que tu le sais, tu comprends mieux ses œuvres et t'arrives à mieux les apprécier. C'est un petit peu comme un bon peintre, on va le dire comme ça. Si aujourd'hui je montre un Picasso à quelqu'un qui ne connaît pas la peinture, tu vas avoir du mal à l'apprécier. Mais si tu comprends la démarche, si tu comprends comment il en est arrivé là, comprendre, c'est savoir apprécier une œuvre. Donc c'est en ça que.
C'est beau ce que tu dis, David.
Ben non, mais c'est vrai, pour le coup, c'est vrai, à mon sens.
Mais c'est hyper intéressant parce que, comme tu le sais, bon, je ne vais pas me faire des copains, mais j'ai commencé à regarder quelques. Toi, tu dis. Moi, j'ai Ghibli, mais toi, tu peux.
Alors, oui, mais il y a les deux écoles. Normalement, ça se dit Ghibli, mais bon. On peut dire Ghibli.
Ouais, je te suis, Ghibli. J'ai regardé Princesse Mononoke, etc. Parce que j'avais pour projet d'aller visiter le musée lors de mon séjour au Japon.
Au Japon.
Bon, ça n'a pas pu se faire parce que ça, c'est pareil. On pourrait en parler de comment trouver des places pour le musée. C'est toute une expérience.
Ouais.
Mais du ça coup, c'est vrai que j'ai un peu de mal parce qu'à la base, c'est pas forcément ma cam. Et je pense que je n'ai pas forcément compris. Là où il voulait m'emmener, et c'est toi les quatre reportages que tu nous partages là,
ouais.
Clairement c'est quelque chose qui pourrait complètement m'intéresser pour mieux comprendre l'homme aussi, ce qu'il anime et son processus créatif, et peut-être qu'après ça j'aurais une vraie démarche toi d'aller
t'as encore plus envie de regarder ce qu'il fait, tu vois aussi l'autre réalisateur, moi je m'en souviens plus, moi un des films qui m'avait marqué de Ghibli, mais c'était pas lui qui l'a réalisé, mais c'était Le Tombeau des Lucioles, qui est une œuvre bouleversante, et qui, moi, je l'avais vu très tôt, parce que à l'époque, en fait, les mangas, c'était considéré comme que pour les enfants, hein, donc je vous parle de mon époque, c'était un film qui était très adulte, et qui parle des atrocités de la guerre, et son ami, donc, est décédé, hein, ce réalisateur-là est décédé, là aussi, tu vois, il prend, tu t'apprends tout ça, t'as plein de brives de vie, qui sont vraiment très intéressantes pour en connaître un petit peu plus sur le maître de l'animation japonaise, parce que bon, je l'ai pas dit, mais toi tu l'as dit, c'est lui qui a fait donc Mon Voisin Totoro, Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, Le Château dans le Ciel, etc. Donc vraiment,
j'ai toujours été stupéfait de voir l'amour du public français, et aussi, tu sais, j'ai l'impression que la France est quand même vraiment consommatrice de ses œuvres.
Ouais,
et du coup,
sûr.
Ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu, parce que c'est une prod française au final, ce dont tu parlais, le documentaire qui va être projeté en salle.
Non, du tout. Non.
C'est
un réalisateur japonais. Je pense que c'est, je ne sais pas si c'est le même réalisateur que celui qui a fait ça. Parce que, en fait, on est. On est le deuxième pays de consommation de manga au monde. Il faut quand même se le rappeler aussi. C'est-à-dire juste après le Japon, il y a la France. Là, je te parle manga.
Pourtant, on a un petit pays, quoi. Enfin, par rapport à d'autres.
On est un petit pays, mais on en consomme énormément. Ouais, on consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de manga. Ouais. Moi, je te propose d'enchaîner avec la suite parce que là aussi, il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, je vous invite réellement à regarder ça et puis aller dans les salles, là où ça sera disponible. Donc, le 21 et 22 novembre, ça s'appelle Hayao Miyazaki et le Héron. Voilà. On va enchaîner sur la suite, mon prépu. Et bien sûr, on va parler. Hop, je vais sortir les gros muscles. Avec cette vidéo, pour ceux qui nous suivent en direct, donc avec la publicité de la puce M4. Donc, puce M4 qui est sortie déjà depuis un petit moment, puisque la puce est déjà disponible donc, dans l'iPad
Pro.
Et iPad elle est sortie d'ailleurs depuis en premier sur l'iPad Pro. Donc, c'est très intéressant. Mais on attendait d'avoir les produits Mac qui soient annoncés équipés de cette même puce. On l'a assez puissante, on l'a assez efficiente, on l'a assez dédiée même pour des tâches d'intelligence artificielle et de 3D. Et donc, il y a été annoncé avec une keynote qui peut sembler un petit peu bizarre. Donc, ce n'était pas une vraie keynote, mais une sorte de semaine keynote où il y a eu en gros une annonce par jour. Je ne sais pas si tu veux revenir sur ça un petit peu, Benjamin. Comment tu l'as ressenti, toi, de ton côté?
C'est sûr que si vous êtes intéressé par ces sujets, je pense que le mieux, c'est d'aller voir les caractéristiques techniques des produits. On va en parler rapidement des grosses nouveautés. Mais je dirais que sur la forme, ce que je trouve intéressant, c'est déjà qu'effectivement, on peut se questionner sur pourquoi l'iPad Pro a été le premier en fait, device à recevoir la puce M4. Je crois que c'est une première dans la vie des puces M1, M2, M3, etc.
Ouais.
Effectivement, comme tu l'as dit, à ma connaissance, alors j'ai pas regardé l'historique de toutes les keynotes depuis 10 ans, mais ce qui s'est passé pendant donc du 28 au 30 octobre, on a eu le droit, c'est pas vraiment une keynote, c'est une vidéo d'une dizaine de minutes par produit. Donc le 28 octobre, c'était l'iMac qui était mis à l'honneur. Le 29, le Mac Mini, et d'ailleurs j'aurais terminé par le Mac Mini, et ils ont terminé octobre.
On va terminer par le
MacBook Pro.
Ouais, tout à fait.
Et effectivement, celui qui a fait le plus parler parmi ces trois annonces en termes de nouveautés et de changements profonds dans la proposition, dans l'offre, c'est le Mac Mini.
Voilà, on va en parler. Donc, si tu veux, on va en parler un petit peu à la fin. Parce que moi, j'aime bien garder le meilleur pour la fin. Ben là, justement, je suis en train de montrer, pareil, pour ceux qui sont avec nous sur Twitch ou si vous nous regardez en replay sur YouTube, l'annonce du MacBook Pro avec la puce M4. Donc, il n'y a pas réellement de bouleversement au niveau hardware, même si ce n'est que ils ont inclus donc cette puce M4. Cette puce M4, elle est, ma foi, très puissante et les comparatifs font que, voilà, on a un peu plus. Sur le single core, il faut quand même se dire que c'est la puce la plus puissante du monde. Voilà. Ça, on ne peut pas revenir là-dessus. C'est un fait, c'est factuel. Après, ce qu'on attend, puisque là, donc, au moment où on vous parle, en fait, c'est le 8 novembre, si je ne me trompe pas. On est le 8 novembre, c'est le jour de la sortie. C'est le jour de la sortie, au moins du Mac Mini, mais il me semble aussi des autres devices. Donc là, pour le MacBook Pro, il est sorti en plusieurs déclinaisons. Je vais même directement aller sur la page où tu le vois ici avec le M4 normal. Il y a aussi la possibilité d'avoir le M4 Pro et le M4 Max dessus. On s'arrête sur le M4 Max. Il n'y a pas de M4 Ultra. Ça aussi, c'est une information qui peut être intéressante. On y reviendra là-dessus. Donc, ça, c'est pas le MacBook Pro. D'ailleurs, c'est l'iMac. Ouais. Le MacBook Pro, c'est ici. Hop, je le montre. Mais d'ailleurs, voilà, tu vois, justement, M4, M4 Pro, M4 Max, toujours avec les deux déclinaisons, le 14 et le 16 pouces. Là où c'est intéressant, c'est qu'on va avoir donc des petites différences, bien sûr, entre le M4 Pro et le M4 Max, notamment sur le nombre de cœurs et notamment sur le nombre de cœurs GPU. Moi, je vais essayer de me concentrer un petit peu là-dessus. Donc, le nombre de GPU, il est intéressant à partir du moment où vous allez pousser un petit peu plus certains taquets. Donc, je parle notamment de 3D. Donc, par exemple, si vous utilisez Blender, si vous utilisez des logiciels d'encodage aussi, ça peut être très intéressant. Évidemment, le jeu vidéo, parce que là aussi, ça a été quelque chose qui a été annoncé et qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a toute la partie présentation sur le site. C'est la première fois que je vois ça. Et je pense que je peux peut-être essayer d'y aller dessus. Bon, c'est pas grave si j'y vais pas dessus, mais il y a une partie gaming pour la première fois qui a été mise en avant sur les slides de présentation. Avant, sur la home page de chaque device, le gaming a été mis en avant sur ces machines-là. C'est la première fois que
et
je vois ça.
Ça, et ça, ça t'a fait la semaine, David.
Et ça, ça m'a évidemment fait la semaine. Bien sûr, bien sûr. Je parle pas trop technique ici parce que le bouleversement n'est pas énorme et je pense que c'est aussi pour ça que pour moi ils ont pas trop communiqué dessus. Je trouve ça intéressant pour le coup. C'est-à-dire qu'il y a pas de changement au niveau du form factor. Il y a pas de changement même si je regarde au niveau iMac en fait. Toutes les déclinaisons, excuse-moi, je finis là-dessus. Toutes les déclinaisons de couleurs, c'est franchement exactement les mêmes que le modèle précédent.
Alors, tu ne peux pas, David, tu es product designer, tu ne peux pas dire que c'est les mêmes, que ce soit les mêmes.
Les petites nuances ont changé. Voilà.
Tout à fait. Ouais, les couleurs sont les mêmes et les nuances ne sont pas les mêmes. Je les trouve à titre personnel. Moi, j'en veux, tu m'en mets un de chaque, hein, David. Hein.
Non, mais évidemment, je ne dis pas que ce n'est pas beau, mais je dis qu'il n'y a pas eu de gros bouleversements à ce niveau-là. Par contre, voilà.
Le bouleversement de l'iMac, il est quand même au niveau de la RAM. Et aussi du prix, parce que...
Alors, c'est partout. C'est partout pour la RAM.
Oui, ça, c'est partout. Mais
je vais y venir.
Tu parles de l'iMac. Autant les autres ont d'autres nouveautés à faire valoir, autant l'iMac, effectivement, on peut s'arrêter à se dire, avant, ils ont changé les couleurs, et encore, c'est les mêmes couleurs, comme tu l'as dit, c'est juste un changement de teinte.
Ouais.
Bon, effectivement, l'iMac, il a été quand même redesigné il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il n'y avait pas grand-chose, je pense, à faire cette année, au-delà proposer les nouvelles puces et les mettre à niveau. Ils ont quand même, effectivement, dorénavant, on part sur un 16 Go de RAM par défaut, ce qui était attendu depuis des lustres. Et son prix a baissé de 100 euros. Bon, après, c'est vrai que les prix avaient augmenté post-Covid, etc. Donc, peut-être que voilà, ça se stabilise. Et en fait, je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que c'est vrai que quand tu regardes de l'extérieur, M1, M2, M3, M4, c'est une escalade de puissance en gros. Et au bout d'un moment, c'est exactement comme l'iPhone. Tu te demandes, par rapport aux usages qu'ont 98% des gens sur le marché, à quoi ça sert. Et autant sur les Mac, effectivement, bon, le gaming, je pense que ça peut être une réponse. Mais en tout cas, Apple, même s'ils en font mention, ont une vision un petit peu différente, en tout cas de ma perception de leur landing page et de leur message, c'est qu'en fait, ils essayent de justifier ce gain de puissance requis par Apple Intelligence, qu'on n'a toujours pas en France.
Sachant que,
en avril 2025.
Sachant que Apple Intelligence... Ouais, donc ça sera pour l'année. Alors voilà, ça aussi, c'est quand même important de le dire, mais c'est vrai qu'il y a Apple Intelligence qui rentre dans toutes les communications de chacun des appareils.
Mais ils sont filous.
C'est très bien. Sauf que Apple Intelligence, il est inclus dans tous les Mac avec un processeur Apple Silicon. Donc c'est-à-dire, à partir du moment où tu as un M, tu as Apple Intelligence. Ah ben, c'est pas la peine de réfléchir.
À vérifier, peut-être que notre chat te dira,
mais
je te parle pas de Apple Intelligence, je te parle de ce qui est inclus à l'intérieur d'Apple Intelligence. Je me demande.
Non, c'est le NPU après qui change. Donc, c'est-à-dire vraiment la partie dédiée, si tu veux, au Neural Engine. Donc, il a évolué un petit peu plus. Donc, tu vas avoir un petit peu plus de puissance. Mais en tout cas, à partir du moment, il y en avait déjà, si tu veux, dans le ME. Et on le sentait venir, tout ça. On sentait qu'il y avait déjà il l'avait annoncé ouvertement. On sentait que ça allait venir, cette intelligence artificielle, même si ça a mis du temps, puisque donc Apple fait partie plus ou moins des dernières grosses boîtes à dire, bon ben voilà, ça y est, on se lance dans l'intelligence artificielle. Mais même si tu communiques sur l'Apple Intelligence, tu seras capable de le faire avec un Mac mini entrée de gamme M1 de 2020 ou 2021, je crois. Il me semble que c'était 2020 ou 2021 pour les premiers.
Et d'après ce que tu avais lu, ça serait pas bridé alors.
Alors, bridé, je sais pas, mais je te parle de disponibilité d'Apple Intelligence. Je te dis pas que ça va être aussi rapide.
Je suis en train de le lire, effectivement, t'as raison.
J'ai toujours raison, Benjamin. Tu t'emmerdes pas avec des futilités.
Je préfère m'assurer en lisant un communiqué d'Apple.
Non, mais c'est sûr. Là où on va, non, mais il faut toujours vérifier, de toute façon. Par contre, là où il va y avoir des petites différences, donc, je parle de Pros M4, on est, aujourd'hui, je veux dire, il faut se poser la question et se dire, j'aimerais passer le cap et passer à M4. Aujourd'hui, le M4, tu l'as partout. Tu l'as sur la gamme MacBook Pro, pas sur la gamme MacBook, attention, sur le Air, ça n'existe pas.
Ouais, mais c'est une question de moi, là, ça va arriver début 2025.
Attends, parce qu'il faut voir comment peut-être Apple veut décliner son offre, mais tu n'as pas, tu as toujours ce même processeur donc sur un iPad, tu l'as sur un MacBook Pro, tu l'as sur un Mac Mini, et tu l'as sur un iMac. Donc, à toi, après, à choisir ce que tu veux avec exactement le même processeur. Il y a une petite différence seulement, c'est que sur la version iMac de base, on est sur du 8 cœurs et il me semble, je vais pas te dire de conneries non plus, et même voilà, sur le Mac mini de base, il en a plus, il est sur du 10 cœurs.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que comment ils adressent, enfin toi regarde, ils ont fait l'iPad Pro, donc Pro par définition qui est quand même censé être destiné plutôt à un usage professionnel.
Oui.
Et en fait, tu pourrais dire que ils veulent servir en premier lieu les professionnels et après faire profiter au grand public de la puissance de la nouvelle génération de M. Mais au final, là, regarde, là, ils te sortent un iMac qui est quand même le produit par définition familial qui est au centre de ton salon et qui, en gros, répond normalement à tout, enfin, qui est utilisé par tous les membres de la famille. Ouais. Et à côté, ils te sortent un Mac mini qui est lui aussi un Mac de bureau qui n'est pas le Mac Studio, qui est quand même un Mac hyper abordable. J'imagine qu'on va en parler juste après.
Bien sûr.
En parallèle, ils te sortent un MacBook Pro. Enfin, est-ce que ce serait trop de rajouter aujourd'hui un MacBook Air et ils veulent distiller dans l'année? Enfin, je serais très
curieux
de savoir.
On a du mal à suivre.
Le planning. Pourquoi ce planning-là?
Aujourd'hui, je me mets à la place de quelqu'un qui va acheter un Mac. Il y a ceux qui se disent, moi, je veux pas d'emmerde. Je veux tout avoir d'un coup. Il faut bien se dire que quand tu as ton iMac, tu as ton clavier, ta souris, ton écran. L'unité centrale qui est inclus.
Souris et clavier en USB type C.
En USB type C, puisque donc il y a eu cette évolution-là. Il y a toujours la recharge par USB type C en dessous de la souris. C'est une hérésie, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, ça te permet d'avoir un pack complet qui démarre à partir de 1499 € pour l'iMac. Et donc, il faut bien se dire aussi que tu repars avec un écran, c'est 4K, et il me semble que c'est, voilà, ça reste du Retina, mais c'est un écran 4K quand même. C'est un bel objet qui est fin, qui prend pas trop de place. Donc, c'est vraiment un beau produit. Après, derrière, si tu as envie d'avoir un petit peu plus de mobilité, ben là, tu pars donc sur le MacBook Pro qui, lui, en plus, est un petit peu plus costaud. Tu sens quand même qu'il est plus taillé pour être une machine de travail, tu vois. Et après, lui-même est décliné en M4, M4 Pro et M4 Max. Et donc, à chaque fois, tu vas chercher de la puissance en plus. Vraiment, là, le M4 Max aujourd'hui, pour le tordre, mais je ne sais pas avec quoi tu peux le faire plier, pour le coup. Donc ça va être vraiment pour un usage spécifique qui est très professionnel, pour des studios, se dire aussi je prends mon M4 Max pour être tranquille pour l'avenir. Ce que j'ai exactement fait pour le coup avec mon Mac Studio M1 Max qui aujourd'hui reste
machine. Oui, tout à fait.
J'arrive pas à le mettre à plat, tu vois, pour le coup c'est la puissance est phénoménale là-dessus.
Moi je me questionne comment le grand public réagit par rapport à cette avalanche de puissance et de communication d'Apple, quoi.
Mais t'as une
comment
partie...
ils se positionnent, je veux dire,
Non, mais t'as une partie communication qui, effectivement, te fait peut-être vouloir acheter telle ou telle machine, parce que t'as plus d'affinité avec la portabilité, t'as plus d'affinité avec un écran que tu veux dans ta cuisine et tout ça. Donc ça, tu vois, c'est... Mais après, sur le rapport puissance, tu vois, de se dire aujourd'hui, je prends un Pro parce que, ou je prends un Max parce que... sur le grand public, c'est pas ça qui va l'intéresser à mon sens. Aujourd'hui, tu vas prendre le premier de la gamme. Après, ça s'adresse aux pros et plus.
Ah, bon, Apple, je pense, pour les autres, n'a rien à apprendre côté marketing, mais malgré tout, je trouve que le message, toi, il pourrait être un peu plus.
C'est un petit peu le bordel. C'est un petit
parce
peu
qu'en fait, quand ils présentent, toi, quand tu vois les publicités que tu as présentées, etc., quand ils présentent ce gain de puissance. Bah, dans ces cas-là, faites-nous une vidéo très centrée sur le gaming, très centrée. Et en fait, ils veulent tout couvrir. Bon, là, c'est le Mac Mini, donc pour moi, c'est ce que tu présentes, c'est un produit grand public. Mais
justement, on y vient là-dessus. Voilà. Pourquoi le Mac Mini? Alors, je fais juste quand même un petit aparté, je reviens sur les trucs d'avant. Je vous le redis
le
avant d'aborder
le truc.
Hyper
c'est hyper
intéressant. 1499 € pour l'iMac. Et c'est pour le MacBook en entrée de gamme 1899 €. Donc on est pour ceux qui veulent s'équiper en M4, hors iPad bien sûr, mais moi pour ça je le mets dans une autre catégorie. Le prix d'entrée de gamme pour des, on va dire des vraies machines, parce que c'est pas une vraie machine le Mac Mini, on va le voir comme ça. Et pourtant ça commence à partir de 1499 € si tu réfléchis. Bon, il n'y a pas de MacBook Air, il n'y a pas de Mac Studio non plus, et encore moins de Mac Pro, qui pour moi vont probablement arriver avec une déclinaison du M4, probablement une déclinaison Ultra. Ces machines-là sont faites pour peut-être une catégorie de personnes encore
Ouais, mais pour autant, ton Mac Studio
dans une niche professionnel. Mais
ton Mac Studio, tu pourras le prendre, je suis sûr, avec un M4, non? Le
Mac Studio, évidemment. Je te dis pas l'inverse. Mmh. Moi, je fais pas partie des gens. Je fais pas partie du marché classique, on va dire. Je maxe un petit peu plus vers le pro, semi-pro, quoi, si tu préfères. Et je suis à l'aise avec ma machine. Et effectivement, si je peux partir sur un Mac Studio, je repartirai sur un Mac Studio. Ça me va très bien. Une machine qui en plus ne dévalue pas au passage, et c'est ça qui est bonnard. Mais je reviens. Là aussi, il y a juste en fait le MacBook tout court, donc le MacBook Air même, on va dire. Il y a juste ça où c'est un petit flou pour moi. C'est bizarre qu'il n'ait pas annoncé. Alors, je pense que c'est plutôt suite à un problème de ligne de production, j'en sais rien.
De prod, hein.
Ouais, je sens juste ce problème-là. Par contre, on en vient au Mac Mini, et donc, gardez en mémoire ce que je vous ai dit juste précédemment. On en vient donc sur une puce M4, cette fois-ci avec la déclinaison 10-10, donc 10 CPU, 10 GPU, et toujours le Neural Engine, prêt pour, effectivement, l'Apple Intelligence, avec, et maintenant, de base, enfin 16Go de RAM. On parle de 16Go de RAM unifié. Aujourd'hui, le 8Go de RAM unifié tourne très bien, mais dans l'avenir, il va peiner un petit peu, et avec 16Go de RAM unifié, c'est le top. 16Go de RAM unifié comme ça, ça veut dire que ça y est, Apple a passé enfin le cap et s'est dit, le 8, c'est fini, on passe à 16. Donc, c'est le meilleur moment, à mon sens, pour en tout cas investir sur ce type de machine. Je vais continuer un petit peu plus. Donc, on a des ports gigabit, et le form factor de cette machine-là a été changé. On se rapproche plus d'un form factor d'Apple TV, quelque chose de très compact, un petit peu plus haut, et qui ressemble finalement à un Mac Mini, un Mac Studio, pardon, compact.
C'est 12,7 cm, enfin 13 quoi.
Voilà, 12,7 cm. Qu'est-ce qu'on a à 12,7 cm, Benjamin?
J'ai pas envie de savoir.
Eh bien, à 12,7 cm, on a par exemple une boîte de conserve. À 12,7 cm, on a par exemple un vinyle, 45 tours. On a plein de petites choses comme ça. Et là, tu te dis, mais putain, il a cherché le con. Et oui, j'ai cherché parce que je me suis dit 12,7, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un truc derrière. Et en fait, 12,7, le gros truc, c'est la moyenne d'une main humaine. C'est universel. C'est la moyenne d'une main humaine, c'est-à-dire du pouce jusqu'au petit doigt. Donc, okay. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'ils l'ont présenté aussi comme ça, tu vois, le Mac Mini.
D'accord. Hein.
Je pense qu'il y a des sens cachés comme ça, ou peut-être je m'emballe et ils en ont rien à péter. Hein. Et ils ont dit ça fera 12,7 parce qu'il n'y a pas la place sinon. Mais voilà.
Je me questionne sur un usage auquel j'avais jamais pensé. J'ai lu un petit peu, du coup, il y a déjà des journalistes qui ont pu jouer un peu avec la machine et certains d'entre eux parlent de transportabilité.
Alors voilà. Je vais venir dessus. Je veux juste finir sur la connectique quand même, qui me semble important. Je les fais pas sur les autres volontairement parce que je trouve qu'il y a rien d'intéressant. Donc vraiment, on se focalise sur cette émission, sur le truc qui nous a marqué. Ça vous donne voilà une autre façon d'appréhender en tout cas les news par rapport, on va dire, aux autres médias. On n'est pas un média.
Ouais, c'est l'annonce à retenir.
Mais voilà. En tout cas, il y a 3 ports Thunderbolt 4 à l'arrière. Ça, c'est important. Mais surtout, on a enfin 2 ports USB type C à l'avant, plus un port jack qui te permet donc de brancher un casque.
Tu peux passer sur du Thunderbolt 5. Hein.
Et tu peux passer sur du Thunderbolt 5, mais là après, il te faut switcher. Je ne me trompe pas, tu es obligé de switcher par contre sur la gamme Pro.
Ouais.
Bah, oui, tu es obligé de parler
des CPU, du GPU, du M4, mais sur le M4 Pro, tu as.
Ouais. Enfin bref. Et attends, je sais pas par contre où tu as la possibilité de switcher sur. Parce que je montre en même temps.
En gros, le CPU est à 12 cœurs pour le Pro et tu peux avoir 14 en option. Et pour ton GPU, tu commences à 16 avec le Pro et tu peux monter à 20.
Ben voilà, donc c'est ici, on a le M4 et M4 Pro, donc qui sont vraiment les deux déclinaisons. Et donc après, bon, si tu veux monter un petit peu plus aussi, si tu veux avoir plus de. Il y a cette subtilité aussi en plus, si tu veux avoir plus de grosses définitions. Et plus d'écran à la fois, il va falloir que tu passes sur une puce pro pour pouvoir gérer ce type de choses. Et donc là, tu peux avoir sur une gamme M4 Pro, je donne le prix d'entrée de gamme. Le prix d'entrée de gamme, c'est 1649 pour un M4 Pro. Donc là, on va se retrouver par contre avec un CPU à 12 cœurs et un GPU à 16 cœurs pour 24Go de mémoire, sachant que le produit de base aussi est à 16Go de mémoire. C'est une excellente machine. Pour les pros, bien sûr, toute petite, mais je reviens sur le modèle de base, qui est celui-ci, qui est donc à 699€. 699€, quand on voit ce qui est capable de faire le M4, et donc les tests sortent petit à petit, C'est incroyable. Aujourd'hui, c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix chez Apple et même peut-être au-delà.
Alors, attends, c'est intéressant parce que je trouve que les gens s'emballent quand même rapidement dans le sens où, mettons que je sois équipé de rien.
Oui.
J'achète ce Mac.
Oui.
On est d'accord que je suis pro Apple, je vais prendre leur keyboard, je vais prendre leur trackpad externe.
Pas forcément,
et
mais
potentiellement,
d'accord.
Je vais. Non, mais bon, si je veux vraiment jouer, toi. Hein, ouais. Et je vais peut-être aller chercher, alors peut-être pas un studio display parce que ça coûte un rein, mais on va aller chercher un écran de qualité chez LG ou que sais-je.
Oui.
Rapidement, je peux dépasser en fait la proposition d'un iMac en termes de coût total.
Évidemment, évidemment.
Ok. Donc en fait, faut aussi mettre en rapport, je pense, effectivement, la machine
voit les usages
en tant que telle.
Voit les usages. Aujourd'hui, ça a toujours été le Mac Mini, a toujours été la machine pour rentrer chez Apple. Ça, je te l'accorde. Aujourd'hui, tu as une télé, tu peux brancher ton Mac Mini s'il le faut.
Ah, ça, avoir, je l'ai lu aussi. Mais...
avoir le Mac Mini dans le salon comme, comme une Apple TV, d'où le format aussi, pour moi, ça me paraît pas déconnant pour le coup. Donc après, il suffira de rajouter un clavier, une souris que tu trouves franchement des combos pas trop dégueulasses à 30-40 euros. Bon. À partir de là, tu as ton truc, tu es chez toi, tu es bien. Chips Coca, j'ai envie de te dire, et puis terminé. Hein. Et un petit cyberpunk par la suite, mais on va y revenir un petit peu là-dessus. Chose aussi importante, bon, ça me tient à cœur aussi de le dire, même si ce n'est pas forcément vrai à 100%, c'est le premier appareil Apple qui est neutre en carbone à 100%. Donc après, il faudrait voir effectivement dans les détails, mais donc
ça doit se vérifier quand même parce que
ça peut se vérifier. Il y a une vidéo qui avait été faite par.
Il faut voir les critères. Il faudrait voir ce que comment Apple.
Par Nautech. Par Nautech. Je me permets de citer Nautech qui avait fait quelques recherches là-dessus. Je vous invite à regarder sa vidéo. C'est pas forcément vrai, on va dire, mais enfin, on n'est pas sur du 100% vrai, mais en tout cas, la démarche est là. Ils font leur pub sur Mère Nature, etc., etc. Voilà, c'est quand même aussi intéressant. Donc, on part, je le rappelle, hein, donc avec un M4, un CPU 10 cœurs, un GPU 10 cœurs, 16 Go de mémoire unifiée, un SSD de 256, qui évidemment ne sera pas suffisant si vous comptez faire un petit peu plus de choses. Derrière, évidemment, dès que vous voulez faire, vous faites un petit sélectionné, on se dit, allez! Moi, 256, c'est un peu juste, je rajoute 512, donc c'est-à-dire 256 de plus, ça fait 230 balles de plus. Ça picote.
Ça, c'est la...
Évidemment, ouais. La base, à chaque fois qu'on achète chez Apple, c'est de prendre à côté un disque dur. Vous le prenez, un disque dur externe USB type C au format NVMe, au format M2, ce que vous voulez, mais vous avez bon, du 1 tera.
Mais ça fait plus de choses sur le bureau, David.
Non, parce que tu le mets derrière et tu ne le vois pas.
Ah, tu peux le plugger.
Tu le mets derrière un USB type C. Moi, le mien, il est plugué derrière. Je l'ai jamais sorti. Et tu vois rien du tout parce que tu le sais. Okay. Les câbles, c'est interdit.
Tu es donc, un voilà. Taré.
Oui, bon, peut-être. Mais en tout cas, voilà, tu le vois pas. Ça vaut aux alentours des 100-120 euros pour des trucs assez sympas où tu vas aller sur du 1500 mégabits par seconde en termes de transfert. Donc c'est largement suffisant pour faire un petit peu de stockage, pour faire même pour travailler dessus. Moi, je travaille. Avec un M2, alors M2, je parle du disque dur, hein, pas du processeur. Hein. Format M2 sur le Mac Studio en externe pour les montages vidéo, c'est aucune différence avec le disque dur interne de la machine. Donc voilà, à chaque fois, bon, il y a le petit pot de vaseline à côté pour te dire, ben voilà, si tu veux rajouter du 10 gigabits, si tu veux rajouter du stockage,
nouveau, hein.
Si tu veux rajouter de la mémoire, ben tu prends le pot et puis tu voilà, tu
tu l'étales.
tu t'étales tranquillement, tu tousses un peu et puis ça passe. Bon. Voilà, mais en gros, cette machine-là, elle vient de concert avec une petite annonce qu'a fait CD Projekt pour annoncer donc que Cyberpunk 2077 arrivait sur Mac officiellement courant 2025. C'est une annonce.
Début 2025. Ouais.
Début 2025, bon, début courant, voilà.
L'édition Ultimate avec la super extension.
Voilà, en gros, la version finie, c'est ça l'avantage, c'est que tu arrives sur Mac, tu auras la version qui est terminée, puisque bon, le lancement de Cyberpunk a été un petit peu chaotique au départ, en tout cas. Le jeu est fantastique, et c'est un énorme appel, en fait, c'est un énorme signal, en tout cas, pour le gaming sur Mac. On en parlait lors de la première émission, ça rejoint un petit peu tout ça. Aujourd'hui, j'entends des discours comme quoi, ouais, bah, plus besoin de PS5, j'achète mon Mac mini et terminé, j'aurai mes jeux dessus.
Hop, 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 hop,
on
hop,
se
hop,
calme un petit peu. Même moi qui suis au taquet, voilà. Même moi qui suis au taquet là-dessus, ça va arriver. Moi, je pense que, voilà, non, mais ça va arriver petit à petit. La ludothèque est en train de se monter petit à petit. C'est pas encore le cas, ne vous emballez pas. J'aimerais, là, il y a les premiers tests qui sortent vraiment. J'aimerais voir du test un petit peu de gaming, des tests sur Whisky, des ou sur crossover de jeux.
Mais non, mais en fait, pour moi, c'est toute la différence, Spad, tu vois. Whisky, c'est un moyen détourné de faire
non,
de jouer
bien
à des
sûr.
Jeux. Là, l'annonce,
c'est un
l'annonce
aperçu.
Est game.
C'est un et, aperçu.
Non, mais
de
l'annonce,
voir.
L'annonce.
Mais l'annonce, voilà, l'annonce est véritable.
Et tout autre. Parce que moi,
on a ça, on a Ubisoft, on a Capcom, on a les studios, donc on a du Death Stranding, on a quand même des gros studios là,
oui, je suis d'accord,
qui se sont présentés officiellement pendant les keynotes d'Apple et des choses qui se, enfin là, Cyberpunk c'est énorme, c'est vraiment énormissime. Il manque plus qu'un Witcher 3 peut-être pour terminer, pour être propre, parce qu'il y avait le 1 et le 2 qui étaient disponibles sur Mac hein, à l'époque.
Ouais, ouais.
Hein. Il y a quand même un petit historique avec le, il y a quand même un petit historique quand même avec le studio. Donc c'est ça que je me dis aussi, ou peut-être c'était pas, tu vois, un Switch officiel, mais en tout cas il y a un historique du studio où ils avaient sorti le 1 et le 2 sur Mac. Le 3 n'était pas sorti sur Mac. J'aimerais qu'il le soit, et probablement le prochain The Witcher.
Moi, on a envie de le voir, de en voir si le parc, enfin si les propriétaires de Mac vont répondre présent et vont se laisser tenter, même si toutes les conditions sont réunies. C'est pas la question. Ouais. Je te parle vraiment de une question de marché, d'habitude de consommation, etc. Mm-hmm. Et voir s'il va y avoir un shift qui va s'opérer. Parce que j'ai pas de chiffre, j'ai essayé d'en trouver pour Capcom, parce que Capcom a fait des annonces pendant des keynotes depuis maintenant, je dirais, 3-4 ans. Ils ont eu la démarche quand même de porter les derniers Resident Evil, notamment, etc. Et j'ai pas le sentiment, alors c'est très personnel, hein, c'est pas du tout factuel, mais j'ai pas le sentiment qu'il y ait une percée, quoi. Que les gens jouent à Resident Evil sur Mac. Alors peut-être que je me trompe et que les gens jouent un peu en silo et n'en parlent pas. Et ils en font un certain volume de vente.
Pourquoi la raison, à mon sens, c'est personnel, c'est pas factuel. Aujourd'hui, tu consommes du jeu vidéo, tu te tournes vers Steam. Tu vas pas te tourner vers l'Apple Store, l'App Store, pardon. Non, si,
non
l'Apple
attention,
Store, pardon,
attention,
de,
attention.
Non, l'App Store. Non, mais de,
mais tu peux,
de Mac OS, tu
oui,
peux acheter.
Alors,
oui, mais je veux
mais
dire.
Moi, je te parle. Attends. Vas-y, c'est des projets qui a le Cyberpunk. Enfin, de mon point de vue, hein, il va peut-être être promu sur l'App Store d'Apple, mais il va être vendu
sur
GOG.
L'espère.
Mais faut
l'espère,
c'est
sincèrement.
Un bon point. Resident Evil, si tu veux jouer aujourd'hui sur Mac, est-ce que
eux, ils ont fait la démarche de passer sur le store officiel. Ils ont fait la démarche aussi de le faire pour iOS.
Attends, c'est le seul moyen aujourd'hui de jouer Resident Evil sur Mac, c'est via l'App Store?
Je serais pas capable de te l'affirmer à
100%.
Je te laisse vérifier si tu veux en parallèle. Bon, en tout cas, voilà. Moi, ce que je retiens de toute cette semaine d'annonces, ben, c'est déjà une keynote un petit peu découpée. Je pense qu'on aura d'autres annonces avant la fin de l'année, à mon sens. Je pense qu'on aura d'autres annonces. Peut-être le MacBook Air.
On est en novembre. Pour moi, l'année est terminée. Hein,
pour toi, l'année est terminée.
Les dernières prises de parole, c'est novembre, généralement. Ouais. Par contre, on aura quelque chose très certainement sur le premier quarter de 2025. Quoi.
Normalement, les Mac, enfin généralement les Mac Mini étaient annoncés début d'année. Donc on va voir.
Déjà avec Apple Intelligence qui va sortir en avril, je pense qu'ils vont essayer de faire quelque chose autour parce que on parle de l'Europe entière, quand même. C'est pas rien comme marché. Donc je pense que et comme tout ce qu'ils font en ce moment, tous les produits, tous leurs efforts. Vont vers l'Apple Intelligence parce que globalement ils ont pris un retard qui est tel que je pense qu'ils veulent rattraper ce retard aussi. C'est pas impossible qu'on ait quelque chose autour d'avril pour le marché européen peut-être. Ça.
Ouais. Ben écoute, on va regarder ça de toute façon de près. On vous tient au courant. S'il y a d'autres keynotes, évidemment, on essaiera de les suivre puisque c'est simplement des choses qu'on suit nous de manière naturelle. Ça fait partie de notre plaisir. Mais même là, vous le voyez sur la vidéo. Ils ont montré les manettes juste avant, vraiment. Et cette machine, effectivement, elle est transportable. Alors, il y a eu un petit truc parce qu'il y a le bouton power qui est dessous. Mais,
ouais,
ce que je disais, c'est que les utilisateurs de Mac le savent. Hein. Moi, depuis que j'ai le Mac Studio, par exemple, je ne l'ai jamais été. Alors, je parle personnellement, mais je ne l'éteins jamais. Le truc se met en veille, il ne consomme rien du tout. Et la consommation,
avec les nouvelles puces.
Avec les nouvelles puces, c'est ultra efficient. Ultra efficient.
Ouais.
Donc bon, voilà. Voilà, petit aparté là-dessus. Pas petit aparté, mais gros dossier. On va passer à la suite. Benjamin, est-ce que tu veux commencer avec le moment touchage ?
Le moment touchage, parfaitement. Écoute, ça fait maintenant quelques jours que j'ai rajouté une application sur mon téléphone. Et pas des moindres, c'est Pokémon Pocket. Alors, je l'avais précommandé, parce que oui, on peut précommander. Je fais partie de ces quelques personnes qui précommandent leurs applications sur l'App Store,
Oh, pardon, j'ai mis du sang.
Qui avait été
Excuse-moi.
annoncé, il y a quelques mois maintenant. Et en fait, bon,
Mais
si je
pareil
dois
pour
résumer
moi.
Pokémon Pocket, c'est littéralement la transposition de l'expérience
Attends.
de collection et de jeu de cartes Pokémon via une interface home machine, quoi. Donc,
Oui.
essayant de ne pas dépenser d'argent dans des decks, j'ai vu en cette application un bon moyen de faire des économies. Si tant est qu'il ne faut pas payer à l'intérieur, parce que bien évidemment, l'application est bourrée de microtransactions. Hein. Pour te donner quelques chiffres que je trouve tout aussi hallucinants que Pokémon Go, donc en 4 jours, l'application a généré 12 millions de dollars.
Voilà.
En
Quatre
4 jours, hein.
jours, 12
4
millions
jours.
de dollars. La
Et
vache.
45%, 45% de ces 12 millions proviennent du Japon.
Je le montre à la caméra en même temps, tu vois. Eh oui, mais ça m'étonne pas. Ça
Donc
m'étonne
c'est
pas.
environ 3 millions de dollars par jour et on a une base de joueurs. Alors c'était les stats sont déjà datés, hein, j'imagine, mais on
Ouais.
parlait de 12 millions de joueurs il y
Oui.
a de ça 2-3 jours, il me semble. Donc là, ça a dû grimper.
Ça a dû exploser, oui.
Donc c'est gratuit, c'est dispo, enfin c'est gratuit. C'est gratuit et bourré de microtransactions.
C'est
c'est
gratuit,
dispo.
mais le pot de vaseline est déjà
On a toujours.
dévissé. C'est-à-dire,
Ouais,
il y a
de toute
vraiment
façon, on est sur
le.
une époque où la vaseline est quand même un peu
Oui, ça reste le
présente
produit
dans un.
phare, hein, quand même. Voilà. Et juste quand même, pour revenir aussi un petit peu sur ce que
Vas-y.
tu disais par rapport à tes chiffres, est-ce que tu sais combien représente la marque Pokémon, la franchise même Pokémon, à travers le monde, pas seulement le Japon? Parce que ça, les gens ne le
Moi.
savent pas forcément, mais en fait, Pokémon, ça fait partie. Et je crois que c'est la
La
franchise la plus
marque.
rentable au monde. Pokémon, pour te donner un ordre d'idée, depuis 1996, ils ont fait 99 milliards de dollars. 99 milliards de dollars. Pour te donner un autre ordre d'idée, leur
Ouais,
chiffre
c'est
d'affaires
assez
en
vieux en vérité, hein,
2022,
quand on y réfléchit. Hein.
le chiffre d'affaires, ben c'est assez vieux, mais en fait, la partie, ça a explosé un petit peu plus tard quand même. Si tu réfléchis, puis en plus, comme les générations se mélangent, les cartes, etc., les anciennes cartes prennent de la valeur, même les nouvelles, enfin bon, bref, c'est vraiment. Oui, non, c'est plutôt vicieux le cercle. Mais bon, oui. Et en fait,
Mais
donc en
ça me...
2022, ils ont
Ouais.
fait 11,6 milliards de chiffre d'affaires. 2023, 10,8 milliards.
Ah, mais c'est monstrueux. Non, mais c'est colossal.
C'est colossal.
Mais en rapport avec le chiffre d'affaires de Nintendo, je serais curieux de savoir parce que...
Alors, sachant que voilà, là aussi, hein, Pokémon ne fait pas partie, enfin, c'est
Non,
pas, ne fait
non,
pas partie de
non. Mais bon.
Nintendo. Nintendo a des parts sur comment ça
Ouais,
s'appelle?
attends,
Ah non,
ils ont
j'allais
quand
dire
même voulu...
sur le studio, excusez-moi, hein, j'ai studio de développement, hein, pop, pop, pop.
Ils ont dû
Sur comment ça
signer
s'appelle?
quelque
Game
chose, une
Freaks?
exclusivité à vie ou... Ouais, c'est
Game
Game
Freaks, hein,
Freak,
me
c'est l'un des
semble-t-il.
studios qui s'est chargé.
Oui, des développements
Bah,
des
d'ailleurs,
jeux.
ils ont. Oui, des jeux, ouais. Enfin, d'un des derniers jeux. Je
Ouais.
sais plus, ils en sortent une pelletée aussi de jeux Pokémon.
Ça sort, effectivement.
Moi, je suis plus. Hein, avec d'une qualité souvent variable. Juste pour revenir au jeu pad,
Vas-y, vas-y,
donc,
vas-y,
j'ai
excuse-moi.
parlé de collection, j'ai parlé de jeux de cartes. Donc, à l'intérieur de l'app, bah, tu vas pouvoir en fait ouvrir toutes les X heures en fonction si tu payes le premium ou pas. Enfin, je passe sur ces détails. Mais tu vas pouvoir du coup ouvrir un paquet de cartes. Tu vas
Ouais,
avoir
on le
des
voit
cartes
là.
plus ou moins rares, etc. Et avec ces
Ouais.
cartes-là, bah, tu vas pouvoir jouer soit contre l'IA. Et du coup, moi, je me mets en mode automatique, comme ça, je vais pas me taper les parties.
Ah, mais d'accord, le mode IA, c'est tu n'es pas contre une IA, mais c'est l'IA joue pour toi.
Alors, je peux jouer contre l'IA, mais je peux demander à l'application de jouer pour moi.
Oh putain, ah ouais, non mais
Une
là,
IA contre une IA. Ce
on est
qui me
au
permet
fond
en fait de
là,
passer. Ce qui me... Oui, mais ce qui me fait passer. Alors, ce qui me permet en fait de gagner davantage de cartes sans y passer des heures. Par contre, quand
c'est
tu joues,
sûr.
quand tu fais du PVP et quand tu rencontres un autre joueur, un vrai joueur, par contre,
Ouais.
là, tu dois te coltiner la partie, quoi. Et
D'accord.
franchement, c'est long. Après, moi, je suis pas un... J'ai jamais joué avec les cartes. J'avais une petite période où je les collectionnais, voilà, parce que c'est sympa, bien que ça soit onéreux. Bref, donc tu peux faire ça. Et l'application, quand même, je trouve, ne reprend pas forcément les codes visuels, toi, ergonomie de tout ce qu'on peut voir sur mobile. À chaque fois, les
Elle reprend un
applications
peu
qui sortent
les
de
codes
chez...
des free to play.
Oui, bien sûr, en termes de game design, mais je te parle même en termes d'interface, tu vois, c'est toujours un peu différent des canons habituels, je trouve. Et donc, il y a toute une...
Elle est
Alors, je ne
plutôt
sais
bien
pas si c'est parce
faite,
que ça vient
je
du
trouve.
Japon, etc., mais tu as toute une... Un pan de customisation, tu peux créer ton propre deck et du coup en faire une vitrine pour un peu te la péter auprès de tes potes.
Ah, ouais,
regarde, là,
okay.
Sur la
Ça,
vidéo,
je suis
on
pas
voit.
allé jusque-là,
Tu
ouais.
peux... En fait, c'est hyper intéressant parce que moi, c'est un monde qui m'est un peu inconnu là. Dernièrement, moi, je jouais à ça quand j'étais jeune. Mais il y a un délire, tu sais, où les cartes très rares dont tu disposes, les vraies cartes, je te parle, hein,
Oui.
souvent, tu sais, tu les mets sous vide, tu les encadres, enfin, t'as des trucs pour les protéger, quoi.
Ouais,
Et
tout à
bien,
fait.
littéralement, dans l'application, tu peux
Tu as ça
prendre des
aussi?
cartes
Ah,
et tu
d'accord.
peux les glisser, tu peux avoir la satisfaction en fait au-delà de la
D'accord.
collection de dire voilà,
Putain,
ça
ça allait vraiment beau, ouais.
c'est ma fierté, toi, c'est vraiment
Je
ce
suis pas
genre
allé
de
jusque-là.
carte.
J'ai l'app, j'ai fait quelques tirages enfin quelques ouvertures, mais
Alors, moi,
je suis pas allé jusque-là.
pour information, j'essaie d'être le moins dépendant possible de mon téléphone. J'ai désactivé
Ouais,
toutes les
mon œil.
notifications et pour celle-là, je les ai
Mon
activées.
œil.
Ah si, je t'assure, j'utilise même une application qui s'appelle Opal, dont je parlerai dans un autre épisode qui est incroyable, qui est
Vas-y,
française,
vas-y,
soit dit en
vas-y.
passant. Et donc, pour cette application spécifiquement, je suis tellement dans un délire d'excitement, soit par rapport à la collection, que j'ai activé les notifications et toutes les 8 heures, j'ouvre mon pack de cartes, etc. Enfin bon, c'est n'importe quoi, hein, mais... Bon,
Non, mais c'est très bien. C'est
à
très bien.
retenir quand même, et
Très
j'écoutais un podcast
addictif.
sur le sujet, à retenir quand même qu'on vit dans une époque où rien ne nous appartient, et ceux qui vont
Tout à
payer
fait.
pour essayer d'atteindre la collection ultime ou les cartes les plus rares, etc.
Ouais.
Si demain, et ça s'est vu, hein, pour plein d'applications, Pokémon Go existe encore aujourd'hui, c'est un miracle selon moi, bon, même s'il y a une base de fans, mais les applications au bout de 5, 8, 10 ans, elles s'éteignent.
Ben, c'est
Et quand
sûr.
cette
Bien
application-là,
sûr.
elle va s'éteindre au profit d'une autre, alors peut-être que
Est-ce
celle-là,
que tu
elle va
penses,
perdurer,
ouais,
tu vois,
parce que je pense
mais...
pas que ce soit un bon exemple là-dessus. Quand tu vois la durée
Oui, je
de
suis d'accord.
vie des cartes Pokémon physiques, j'ai du mal à croire que même les
Oui,
virtuels
mais
et ça
c'est un
cartonne
moyen
et
de demander aux gens de rebelote, remettre de
on n'est pas
l'argent
loin du
sur la
NFT quand
table,
même,
tu
hein,
vois.
finalement.
Alors, mais justement, en fait, moi j'étais hyper frileux et je trouvais ça complètement absurde. Mais s'ils avaient eu la démarche de foutre du NFT derrière chaque carte,
Oui, mais
mais moi
si t'es
j'aurais
pas.
payé, quoi.
Non,
Parce
mais
que
si
moi
t'es
je suis
pas
propriétaire de
foutu,
ma
si t'es
carte
pas
et
foutu de
demain.
l'afficher ton NFT,
Mais t'as
les
des
gens ont du
lecteurs, t'as
mal à
le.
comprendre avec ça.
Oui, non, mais je suis d'accord, les gens ne sont pas prêts pour ça. Mais
Non,
demain, l'application, elle
moi non plus.
s'éteint. Mais je reste propriétaire de ma carte. Ça
Oui,
change
voilà.
absolument
Ouais.
tout, en
Oui.
fait.
Non,
Je
mais
peux
là,
la vendre à
aujourd'hui,
un
tu dis
autre,
Nintendo fait
etc.
du NFT, là, je
Ça
te
n'arrivera
dis pas
jamais.
l'image
Alors,
de
un
la
pour
marque.
autre. Mais non,
Ah,
mais ça
là,
n'arrivera
prends un
jamais.
gros,
Enfin, en
gros
tout cas,
coup.
pas dans l'état. Enfin,
Bon,
pas
tu
dans
le
l'état
conseilles
dans
tout de
lequel.
même, forcément.
Sans payer.
De fait. D'accord.
Mais
Bon,
bon,
mais très
après,
bien.
ça dépend. Quand tu vois Brawl Stars, tu parlais avec les enfants, etc., qui sont
Ah ouais,
qui
non, mais
veulent le
là,
dernier
non.
personnage en date. Et, enfin, bref. C'est des
Non, et moi
mécaniques
pour
de
le
jeu
coup, ben
qui te.
j'ai joué à Pokémon, enfin au jeu Pokémon, avec les decks qu'on a à la maison et j'ai joué avec mes enfants. Je trouve ça intéressant pour le
Ok.
coup parce que ça permet donc d'avoir un vrai échange avec des gens qui sont notamment mes enfants. Et ça, c'est quand même un gros plus, hein? Parce que tu te dis, ah, il y a des gens qui vivent dans ma maison, puis finalement, en fait, voilà. Non, je plaisante, bien sûr. Mais bon, en tout cas, c'est ouais, le jeu normal, il est très addictif aussi, hein. Je veux dire le jeu physique, mais bon c'est le même hein, pour le
Ouais.
coup, mais ouais
Mais je trouve
c'est
ça
très très
intéressant. Mais
addictif.
toi, j'ai découvert les règles parce que tu as une sorte de
Voilà, t'as une
tuto
sorte
très bien
de
fait
tuto
qui
et
m'a
c'est
permis.
ça, ouais,
Moi,
et
je
c'est
n'avais
pas
jamais
évident.
joué avec.
C'est pas évident quand t'attaques la version normale. Enfin, si t'as pas quelqu'un qui t'explique, nous on s'est appuyé sur une vidéo YouTube, tu vois, pour apprendre.
Ouais.
Typiquement, hein.
Bah moi,
Mais
j'étais
bon là
resté
c'est
sur
t'es accompagné
les
là-dessus.
principes du jeu vidéo, toi. Et en fait, quand tu joues avec les vraies cartes, enfin, avec les vraies cartes, elles sont digitalisées, mais c'est le même principe, c'est un peu adapté. Mais ça va beaucoup plus loin, en fait, que
Bon, ça y
les
ressemble,
principes
hein. Tu perds
du.
des points, tu gagnes des. Tu vois?
Je
Fais de
trouve qu'il y a
l'XP.
plus de subtilité avec le jeu de cartes qu'avec le jeu vidéo. Bah après, j'ai
Oh,
pas
bah,
joué au
c'est
tout dernier
sûr.
jeu Pokémon, mais jeu vidéo, j'entends. Hein.
Ouais.
Bon, écoute. Donc voilà, je
Bon,
m'amuse bien.
écoute. Tu t'amuses bien, voilà. Bah, si vous voulez le télécharger, on mettra le lien dans la description, évidemment, de l'app qui est sortie sur les deux. Android,
iOS, Android. Ouais.
iOS. Ouais, bien sûr. Bon, ça paraît tout à fait classique. Bon,
Fait,
allez.
je retourne en adolescence avec ce truc, quoi. C'est incroyable.
Je fais pas un écart, mais je rejoins. Il y a beaucoup de subtilité dans les JV quand même. Bon, voilà. On reviendra. Je vois les commentaires en même temps sur le Twitch. Je reviens en même temps aussi sur ce que je disais en début de stream, enfin, en début de podcast. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Voilà, et je vous le montre. Hop, je vais peut-être me mettre en tac, plein écran. Plein écran, c'est quoi? C'est ça. Voilà. C'est le livre. Sur Hayao Miyazaki. Donc, je sais pas si vous m'entendez bien là. Ouais, vous m'entendez bien peut-être. Voilà. Donc, ce livre-là, qui est absolument somptueux, c'est une tuerie absolue. Livre de 288 pages, édité en 2021, et qui accompagne... Oula, attention que j'appuie sur les boutons en même temps. Qui a été organisé... En fait, c'est... je relis mes notes. C'est une rétrospective... Ouais, il y a eu une rétrospective qui a été faite, qui a été dédiée en fait à Miyazaki, en fait, organisée par l'Academy Museum of Notion... Motion Picture, pardon, donc un partenariat avec les studios Ghibli. Et donc ce livre-là, aux éditions, c'est Delmonico, voilà, avec DAP, D-A-P. C'est une exploration, j'ai envie de te dire, richement illustrée de l'univers, de tout l'univers cinématographique du célèbre réalisateur, animateur japonais, puisqu'il est donc les deux. Et en fait, à l'intérieur, ben, tu vas retrouver un petit peu ce dont on parlait au début. C'est-à-dire ce que tu découvres finalement avec les reportages qu'on avait vus. Je vais peut-être les remettre en même temps. Enfin, on remarque que je vous parle là en full cam. Et je vais quand même peut-être.
Tu peux nous montrer surtout quelques pages.
Ouais, ouais, je vais vous montrer quelques pages. Donc ça mélange en fait des croquis conceptuels. Ça démange. Il y a des dessins de personnages, des storyboards. Il y a de la mise en page simple. Il y a des. Comment ça s'appelle ? Du celluloid directement de production. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Par exemple ceci tiré directement de Porco Rosso. Donc quelques dessins d'avions, tout ça croqué par Hayao lui-même. Donc là on a.
Je vois pas mal de textes à côté, donc il y a
beaucoup d'explications, ouais, sur la manière dont il a fait soit la scène ou. Ou comment il a imaginé.
C'est lui qui partage en fait, ou c'est quelqu'un qui analyse.
Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Okay. Il te dit, il a dit ça. Comme là, tu vois, il avait simplement voulu faire une intention. Donc, c'est-à-dire un peu de la manière de l'impressionnisme pour ceux qui connaissent un petit peu, un petit peu l'art. Donc, il y a énormément de choses. Alors, le livre est en anglais. Hein. Il faut connaître un petit peu la langue si vous voulez en profiter pleinement. Sauf que même aujourd'hui, vous prenez une photo, vous passez par ChatGPT, puis vous le traduira. Si
oui,
vous voulez,
mais... je pense qu'aujourd'hui, on a voilà.
Ça,
des moyens divers.
C'est typiquement ce que sort directement Miyazaki quand il produit, puisque donc il est animateur. Lui, il s'occupe de faire vraiment cette partie-là du layout. Et une fois que le layout est sorti, après, il y a même d'autres animateurs qui vont rajouter des clés à l'animation. Donc lui, il sort ce genre de truc-là. Quand il produit des choses, et il travaille énormément avec l'aquarelle, donc il y a des petites choses comme ça aussi qu'on retrouve. Et ça, évidemment, ça reprend beaucoup de ses œuvres, comme la Kiki Delivrise ou Kiki la petite sorcière pour la version française.
Je me souviens. Je l'ai pas vu, mais je vois très
superbe.
Bien.
Vraiment, vraiment, vraiment superbe. Donc voilà.
Tu as une idée de combien de temps il prend pour tomber une nouvelle production ?
Généralement, je crois qu'une production, ça lui prend 4 ans, 3 ans, 4 ans, il me semble, de mémoire, quelque chose comme ça. Et après, je pense que ça a évolué en fonction de son âge, bien sûr. Donc là, très sincèrement, pour le garçon et le héron, non, pas la technologie. Alors, pas la technologie, puisqu'il y a, enfin, il y a quasiment pas de 3D dans ses productions. Justement, son fils s'est dirigé vers la 3D. C'est un massacre absolu. Là, ils ont sorti d'autres films à côté. En fait, ils ont fait deux équipes. Tu as une équipe qui est dédiée à Hayao et une autre équipe qui est plus traditionnelle pour le coup. Donc, vraiment sur très traditionnel que tout le monde veut. Et l'autre partie qui a été dirigée, qui est dirigée par Goro, qui fait de la 3D.
Mais il va se passer quoi pour le studio quand il partira ?
Oh ben, moi, je pense que ça sera la fin du studio. Ça va être très compliqué de trouver quelqu'un qui va remplacer.
Tu penses qu'il n'a pas laissé des pistes ou en tout cas des projets pour.
Il a un caractère qui est particulier. Il est un peu autoritaire dans sa façon de travailler aussi. Son fils, la relation, elle est plombée complète et son fils n'a pas le sens artistique de son père, même s'il est capable de faire des choses. Et aujourd'hui, le fait d'avoir fait, de basculer peut-être petit à petit sur la 3D, ça a peut-être donné quelque chose. Mais là, en l'occurrence, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est la sorcière, je ne sais pas quoi, celui de Goro, il faudra que je recherche, je ne me rappelle plus du nom. J'ai commencé à regarder, j'ai arrêté. C'est le premier film de Ghibli que je ne peux pas regarder. C'est horrible, horrible. Visuellement, c'est horrible. Déjà, visuellement, c'est horrible. J'ai halluciné. Okay. Je n'ai pas pu le regarder, donc voilà. Donc évidemment, donc là il y a des œuvres de ben pareil, il y a de Princesse Mononoké, de Kiki, du Voyage de Chihiro, du Château ambulant, de Totoro évidemment. Donc tout ça vous pouvez.
Ce genre d'ouvrage,
c'est pépite. Le seul truc, c'est que effectivement c'est en anglais.
Les artbooks,
ça coûte 55 euros. Voilà. 55 euros. Ouais, je trouve que mais ressenti 300.
Ouais. Par rapport au volume.
Donc voilà. Oui, mais voilà, donc on parle effectivement de Makoto Shinkai, mais pour le coup, ça va pas être un repreneur du studio Ghibli. Évidemment, spirituellement, effectivement, hein, successeur spirituel, comme on dit dans le chat. Mais aujourd'hui, je vois personne, si ce n'est peut-être, tu vois, mais même ce gars-là s'est fait son nom de son côté. Maintenant, il est connu, il avance et il y a énormément de succès, effectivement.
Est-ce qu'il doit y avoir une reprise, toi ? Est-ce que la meilleure défense, c'est pas simplement que ça s'arrête, justement, toi ? Enfin,
peut-être. C'est une excellente remarque, ce que tu dis là. C'est une excellente remarque. Et d'ailleurs, peut-être c'est quelque chose qu'on va voir dans le documentaire. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que de ce que je ressens, bah, après, il l'a fait dans ses dernières œuvres, mais à mon avis, il va dire, bon, ben voilà, là, c'est ma dernière œuvre, donc je vais tout donner, je vais essayer de transmettre, etc. Ce qu'il avait plus ou moins fait. Fait ce qu'il fait depuis qu'il dit qu'il va partir à la retraite, depuis 2013. Donc,
De la même manière, bon, c'est pas du tout le même sujet, mais a priori, Apple a donné des directives pour les 20 ou 25 ans suite à son décès, quoi. Donc, ils ont une vision.
Tim Cook.
Steve Jobs.
Steve Jobs.
Avant. Est-ce que artistiquement ou en termes de recherche créative et d'idées créatives, est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose ?
T'as une sorte de grande directive, si tu veux, mais les idées.
Oui, c'est ça. Oui.
Et même d'ailleurs, c'est l'un des trucs, je crois que c'est sur sa biographie officielle que je l'ai vu de Steve Jobs, qui a dit à Tim Cook, surtout ne te dis pas. Qu'est-ce que Steve aurait pensé, tu vois. Donc vraiment partir sur ses propres trucs et ses propres décisions.
Ouais,
après évidemment, tu as des décisions clés pour dire voilà, on va partir sur les pros, on va continuer sur les téléphones qui est notre voilà, etc.
Connaissant le personnage, je pense qu'il a voulu
Mais Ghibli on est sur une entreprise qui est totalement différente avec une culture qui est totalement différente. C'est
non, ma question, un personnage c'est, est-ce qui est différent. Est-ce qu'on peut imaginer en fait justement donner des directives et un plan pour les 10, 15, 20 ans.
J'espère. Mais il est tellement exceptionnel. Vraiment, c'est un génie pour le coup. Trouver quelqu'un qui va reprendre ce génie-là, c'est pas possible. Donc, ça voudrait dire quelqu'un qui insuffle un nouveau génie, une nouvelle proposition artistique à Ghibli. Aujourd'hui, t'as plein d'animateurs et t'as plein d'animateurs de qualité. Les meilleurs sont là-bas. Est-ce qu'il y en a un qui va sortir du lot ? Je suis pas capable de te le dire. C'est peut-être la réponse qu'on aura, en tout cas.
Il faudrait étudier l'équipe en place, quoi.
Ouais. Peut-être réponse qu'on aura dans le documentaire.
Peut-être.
On verra bien. Okay. Allez, je m'arrête là. Donc, c'est ce livre-là, hein, je le répète. Hein. Hayao Miyazaki, vous pouvez le trouver sur Amazon. Vous pouvez le trouver sur le site de l'éditeur qui est Delmonico, si je ne me trompe pas aussi. On va passer à une petite puce, un petit bonus. Normalement, on a fini, mais là, on a décidé de se dire en fait, il y a un petit truc
c'est
sur lequel.
C'est pas assez long.
C'est pas assez long. On est déjà trop juste, évidemment, mais on va quand même s'en rajouter une couche. On voulait vous parler, en fait, maintenant, rajouter un petit truc, c'est se dire voilà, à la fin de chaque épisode, on va vous mettre un créateur en avant, un YouTuber, ça peut être quelqu'un de Twitch, ça peut être quelque chose comme ça, mais en tout cas, quelque chose que nous, on apprécie. On consomme énormément de contenu comme ça. Moi, j'ai un code.
Et c'est en lien avec le touchage.
C'est un lien avec le touchage. On reste dans la catégorie touchage,
et moi,
évidemment.
Moi, je suis ravi. Que pour introduire cette nouvelle, enfin c'est pas une nouvelle section, mais en tout cas cette nouvelle
ce nouveau slot
composante,
on peut le dire comme ça.
Ce nouveau slot dans le touchage qu'on ait choisi ce personnage que tu connais, que tu as découvert bien avant moi, hein, je crois.
Non, mais voilà, c'est justement, j'ai dit, on n'a qu'à parler de telle personne quand on a parlé de dire, on va partager des créateurs. J'ai abordé ce sujet-là et je lui ai dit, je peux parler de ce gars-là, je sais que tu consommes et que tu le suivais. Donc ce gars-là, c'est Polygon. Voilà, Polygon, en fait, c'est un YouTuber, bien sûr, donc on est sur la plateforme YouTube, qui fait du DIY et qui fait, donc à ce moment, il a racheté une maison. Et donc il fait son réaménagement,
Il fait de la rénovation,
je cherchais le terme, excusez-moi. C'est de la rénovation, il le fait pièce par pièce, généralement, et c'est ça qui est assez intéressant, la coum. Je crois qu'il a fait la cuisine, il a fait sa chambre, il a fait son salon.
Il a fait sa véranda aussi. C'est une succession de projets de rénovation, ouais. En fait,
voilà,
il a commencé
une succession de projets. Tout à fait. Mais.
Moi, j'ai,
Mais quand même, juste pour terminer la description, pour, et après je te laisse la main là-dessus, c'est que à chacune en fait de chacune de ses productions est qualitative dans le sens où il a, ce gars-là en tout cas, un sens du cadrage, un sens artistique, un sens de la narration et du storytelling qui fait que c'est extrêmement agréable. Tu vois là, il y a un petit travelling qui est propre, la lumière est réfléchie, le cadrage est réfléchi. Donc à chaque fois en fait, t'as pas l'impression de regarder un mec qui prend sa GoPro et qui va faire son bricolage à l'arrache avec un micro pourri. Le son est propre, la vidéo est propre, tout est vraiment nickel pour le coup. Donc j'en profite pour le féliciter aussi au passage. Polygon, il fait vraiment, vraiment du bon boulot. Et je te laisse la parole.
Bah, je me joins à toi pour les félicitations. Non, en fait, moi, j'ai découvert cette chaîne un peu tardivement et je pense qu'il est en plein essor. Là. Il connaît vraiment, il est souvent trending sur YouTube et c'est hautement mérité. Et en fait, il monte en gamme. C'est-à-dire que quand moi, j'ai regardé toutes ces vidéos, je n'ai jamais fait ça pour une chaîne YouTube. Hein. Donc, je suis remonté vraiment à la première et j'ai tout regardé tellement c'est un peu du porn visuel, quoi, si je puis m'exprimer ainsi. Non, mais vraiment, hein, pour plein de raisons.
Le terme est bon, ouais,
Pour plein de raisons. Et en fait, déjà, il y a cette montée de puissance. C'est-à-dire qu'il a commencé par un petit appartement, je ne sais où.
Ouais,
et là, aujourd'hui, il rénove effectivement une maison bien plus importante, une grange avec un terrain, voilà, c'est un vrai terrain de jeu pour lui, quoi. Mmh. Et comme tu disais, en fait, il a un souci du détail dans à peu près tout. Il s'exprime bien. Ça paraît bête à dire, mais c'est agréable à l'écouter. Il arrive à distiller quelques points d'humour, mais pas trop ni pas assez dans ses vidéos.
Ouais,
bon, tu as parlé de la prod, le gars touche, il touche aussi en effets spéciaux, il touche en montage. Et il sait écrire et en plus il est habile avec ses mains et à chaque fois qu'il est confronté à quelque chose qu'il ne connaît pas ou à un problème nouveau, bah il se dégonfle pas, il va apprendre. Et le gars touche à tout. Il fait de la couture, il a dû raccourcir un coussin. En fait, à chaque fois, c'est une surprise, quoi. Il va sur un domaine où on ne l'attend pas. Bon, au bout d'un moment, forcément, il continue à faire de l'électricité.
Alors, il apprend. C'est ça qui est bien, c'est qu'il apprend. Exactement. Il montre aussi là où il galère.
Moi, quand mon fils sera en âge, il va tous bouffer.
D'accord. Parce que le père n'est pas capable de le faire déjà.
Non,
c'est pour ça,
non,
pour remplacer.
Il fait 5% de ce qu'il fait, le Paul. Mais je trouve que c'est un modèle d'inspiration et même en termes de mindset, quoi. Vraiment, ce qu'il dégage en termes de valeur et de. Ouais, c'est un contenu qui devrait être. Et je comprends pas pourquoi il n'est pas numéro 1 devant des Squeezie, des Thibaut InShape, qui font aussi beaucoup de boulot. C'est des acharnés. Il n'y a pas de problème.
C'est un marché.
Mais je trouve qu'il mérite. Il mérite d'être mis davantage en lumière et surtout qu'on partage et qu'on fasse tourner le mot, quoi.
Absolument. Ben justement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec cette nouvelle section de touchage. On vous présente des youtubeurs que vous connaissez peut-être pas forcément. Alors il y en aura des suffisamment. Celui-là, il est quand même assez connu. Peut-être pas partout, ça, évidemment. Hein.
Parce que il devient. Combien, hein. Il est à 300 000 et quelques. Hein.
Ah, 300 000 et quelques. 400 000.
400 000,
pardon.
Okay, 400
000. Donc 400 000. Non, mais là, il est en train de faire du gros
YouTubeur. Je pense que dans un an et demi, il tape le million. S'il continue avec des projets comme ça.
Bah oui, c'est top. Peut-être il faudra qu'il rachète une autre maison, mais bon, oui, il aura plein de projets. Il a plein de projets intéressants. C'est très intéressant. Vous apprenez évidemment beaucoup de choses. Ça peut donner plein d'idées si vous êtes en travaux également chez vous. Donc,
même les vidéos sponsorisées, à un moment, il était parti faire un sorte de reportage et puis il avait fait un projet hydraulique où il avait fait un mini barrage. Pour
oui, il y avait ça aussi, une guirlande sur notre chaîne, je crois, non ?
Non, c'est la même. C'est beaucoup plus. C'est moins fréquent. Le gros de ses vidéos, ça reste quand même son projet phare, donc la maison sur laquelle il est en ce moment. Mais il va avoir un patrimoine immobilier de dingue dans 10 ans, ce gars.
oui, c'est très bien. C'est très, très bien.
Et je lui souhaite encore une fois.
Eh bien, écoute, Benjamin, je crois qu'on va s'arrêter peut-être là. Pour aujourd'hui, voilà, je crois qu'on a fait un tour complet à la fois de l'actualité, des trucs à retenir,
Et dans deux semaines, on rajoutera une nouvelle section.
Et dans deux semaines, on rajoutera une nouvelle section. Il faudra rajouter du temps, hein, par contre, parce que là, ça va pas être.
Ouais, tout à fait.
Ça va être très compliqué pour nous de tout finir. Bon, en tout cas, merci. Pour ceux qui nous ont suivis, ceux qui nous ont écoutés. Benjamin, merci à toi d'avoir été là.
Merci également.
On se retrouve, je l'ai dit, hein, évidemment, dans 15 jours, puisque l'émission est bimensuelle. Vous nous retrouvez également donc sur la chaîne Replay, Pad Out.
Et on partira Et dans les étoiles dans deux semaines, David. Petit teasing.
Ah, mais on partira dans les étoiles s'il le faut. Mais je vous montre aussi en même temps, hop, ici, pour ceux qui sont encore avec nous, je crois que je vais y arriver, oui. Voilà, hein, je le rappelle, nous sommes maintenant officiellement... Oh, je ne sais pas si on le voit.
Je pense qu'il faut...
Ouais, j'ai trop de luminosité, mais en tout cas, voilà, on est présent sur Apple Podcasts, on est présent sur Spotify. Les liens seront évidemment dans la description. Merci de vous abonner. N'hésitez pas à laisser même un petit commentaire pour Apple Podcasts et puis pour Spotify. Ça nous permet d'encourager la chaîne déjà dans un premier temps. Et puis nous, quand on a des retours, ben, c'est plutôt agréable à lire ou pas. S'il y a des choses à corriger, on est open aussi. Vous pouvez laisser un commentaire. On lira tout. Merci
pour
de nous
team,
avoir suivi.
Pour que Tim
nous mette en avant.
Et nous écoute.
Allez, merci à tous. Ciao, ciao. À bientôt.
Salut.